Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Alexis.
Allô Nicolas.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Très bien aussi. On va revenir sur ta présentation qui j'ai trouvé très intéressante parce qu'elle a démystifié un peu qu'est-ce que la recherche en cybersécurité. Il y a beaucoup de gens qui peut-être mettent beaucoup de glamour autour de ça. Tu as ramené ça peut-être au réel, puis justement comment ça s'exécute et qu'est-ce que ça fait. Et par le fait même, tu as pu permettre d'expliquer comment les informations, le threat intel qui existe, comment celui-ci se matérialise et comment on doit, comme consommateur de celui-ci, l'utiliser et justement s'informer à ce sujet-là. Fait que je vais commencer avec la première question, parce que tu sais, je présume que les gens ont écouté la conférence. S'ils l'ont pas fait, c'est encore disponible jusqu'en juin, je crois. Et si vous n'avez pas payé pour, mais c'est encore disponible à l'heure actuelle pour pas trop cher, vous pouvez quand même accéder encore. Mais je plaque mes affaires. C'est ultra intéressant comme conférence. Tu as découpé ça essentiellement en trois grands blocs pour d'où vient le threat intel. Le premier grand bloc, c'est le partage entre les pairs, c'est-à-dire entre les différentes compagnies de cybersécurité. Puis comment ça fonctionne, ce partage-là, au-delà du fait, tu mentionnais dans ta conférence que vous lisez les papiers des autres, mais j'imagine que ça va devoir aller un petit peu plus loin que ça en termes de collaboration quand même.
Ouais, ça va plus loin que juste lire ce qui est publié. Je pense que lire ce que les autres publient, c'est la base. Dans le fond, il faut prendre avantage de la connaissance actuelle là, pour pas réinventer la roue à chaque fois. Mais on comprend que tout le monde peut pas publier tous les détails sur toutes les attaques. Ne serait-ce que pour pas en divulguer à l'attaquant comment on fait pour le traquer, c'est quoi ses points faibles, parce qu'on veut pas, le tipper off. Par contre, c'est intéressant de partager ces détails-là très très précis avec d'autres chercheurs. Qu'on fait confiance, qui vont être capables d'utiliser cette information-là pour améliorer la posture de sécurité de leurs propres clients. Ce que je disais dans la présentation, c'est que tous les vendors là, de produits de sécurité sur un plan commercial, c'est des compétiteurs là, dans la plupart des cas. Mais quand on va au niveau des analystes puis des chercheurs qui ont tous la même mission, hein, c'est de trouver comment les attaquants font pour réussir leurs attaques puis leur mettre des bâtons dans les roues, ben à ce moment-là, la partie compétition au niveau vraiment des ventes marketing, on l'oublie. Là, on veut juste s'entraider puis essayer de rendre la vie la plus difficile aux attaquants. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des liens qui vont se créer entre... C'est des liens de confiance. Dans bien des cas, c'est personne à personne. Tu sais, je vais croiser un analyste d'une autre compagnie dans une conférence. On va échanger, on va se parler de notre rôle, notre job, un peu notre background. On peut aussi... Il y a un peu de vetting qui se fait. Tu connais tout tel gars. Oh, lui, il est fiable, on peut lui faire confiance et tout ça. Puis les gens qui travaillent dans les compagnies comme de sécu, ben ils vont se bâtir un réseau. Et ce que je répète tout le temps, c'est qu'il n'y a pas une compagnie qui peut dire qu'il y a une visibilité parfaite sur une attaque. On a tous nos angles de vue, nos points morts. Puis quand on se met à échanger avec les autres, on est capable de reconstruire une grosse partie de l'attaque puis être sûr qu'on la comprend bien. Puis après ça, on est capable de bloquer toutes les parties qu'on peut bloquer de l'attaque, de la chaîne, pour que ben, tout le monde soit en meilleure posture de sécurité.
Ouais, ben c'est essentiellement une affaire d'humain. Ça, c'est tout à fait normal. Puis ça, on l'oublie. Puis peut-être qu'on l'a plus oublié avec le confinement, justement, que ces relations-là, les présences dans les conférences. Puis là, j'ai quand même pitché parce que j'ai quand même, dans un contexte de conférence, c'est très important, ces contacts-là entre les personnes, justement, pour échanger ces informations-là. En tant que chercheur, c'est d'autant plus utile parce que c'est justement capable d'aller établir une communication avec d'autres personnes justement qui contribuent et de juger la qualité de ce qu'ils font. Ça, c'est mais en tant que grande compagnie, j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de... Au-delà du... Tu mentionnais justement son départ sur le fait que chacun vend son produit, une saine collaboration dans ces éléments-là, puis j'imagine dans plus qu'un cas, là.
Oh oui, c'est vraiment fréquent. Puis tu sais, des fois, c'est des collaborations vraiment ad hoc, tu sais. T'écris à quelqu'un, hey, t'as-tu vu ce nom de domaine-là passer? Je viens de spotter, là, il vient d'être enregistré il y a 2-3 jours. Puis selon moi, c'est tel groupe à cause de telle caractéristique. Tu l'as-tu vu? Ah oui, je l'ai vu hier, ils viennent de l'activer, puis on l'a vu dans du trafic de courriel. Fait que des fois, c'est juste pour valider un point de vue. Des fois, ça va un peu plus loin. Tu sais, il y a plusieurs exemples de soit des takedowns ou on dirait en anglais, tu sais, disruption de botnet. Fait que t'as un gros botnet qui est vraiment vraiment très, très prévalent. Puis il y a des gens, des compagnies qui vont se mettre ensemble pour réussir soit à faire un takedown complet, mais bien souvent, ça va être juste une espèce de gros coup de poing dans le front, là, où est-ce que on va être capable, par différents moyens, d'aller, shutter down une série de noms de domaines d'un coup, vraiment de façon coordonnée, pour que tout d'un coup, le botnet devienne soit super lent ou qu'il y en ait des grosses parties qui soient déconnectées de l'attaquant. Puis, des fois, ça va plus loin, des fois, ça peut aller à des arrestations, parce que quand il y a du law enforcement impliqué, ben là, quand on donne toute l'information, on la met ensemble, ben, comme je disais, c'est que tout le monde a une vue globale sur tout ce qui se passe, fait que ça permet vraiment beaucoup plus de choses au final que si chacun travaille dans son coin, là.
Effectivement, puis ça, c'est très positif de l'industrie, de justement de voir cette collaboration-là. Puis je pense que les gens à l'extérieur ne le voient pas assez, justement, que dans l'absolu, on travaille tous pour le même objectif, c'est-à-dire faire du mal aux malveillants, puis justement, voilà. qu'arrêtent de nuire. C'est en plus, de l'autre côté, c'est un peu amusant, parce que dans le fond, c'est comme détruire votre propre marché, parce que s'il n'y avait pas de malveillants, il n'y aurait pas de marché. Mais je pense qu'il y aura toujours du malveillant, de toute façon. L'histoire de l'humanité le démontre quand même assez bien. On va basculer sur la deuxième facette, puis qui, pour moi, m'intéresse peut-être un peu plus aussi, puis c'est pour ça que je bascule aussi vite. Le volet plus anonyme ou le volet plus les chercheurs qui émergent de nulle part puis qui émettent des choses comme ça. Puis pour vous autres, comme des chercheurs professionnels, ça doit avoir quand même un certain impact ou un intérêt, mais en même temps, peut-être un peu de bruit de fond aussi.
Oui, c'est officiel. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'intéresse aux cyberattaques, comment les analyser, comment les comprendre. Il y a, disons, les profs, ceux qui font ça dans un cadre professionnel, qui travaillent pour un employeur, ils ont des outils, ils ont des sources d'informations, ils ont de l'information de leurs clients directement. Mais il y a aussi des gens qui font ça, disons, dans leur sous-sol ou par pur intérêt, puis qui vont avoir accès, pas toujours aux outils professionnels, puis surtout aux sources d'informations exclusives. Donc, il y a de l'information disponible, puis il y a gratuitement, n'importe qui peut accéder. Puis, il y a des gens qui vont s'essayer à faire des corrélations, à essayer d'approfondir ou d'expliquer ou d'analyser une attaque. Des fois, c'est un exercice académique ou d'apprentissage pour eux. Ils vont le publier. C'est bien correct comme ça. Mais c'est, dans le fond, de mon point de vue, ce genre de publication-là, il faut la prendre avec précaution, disons, parce que la source n'est pas connue, n'est pas... c'est pas une source fiable, établie. C'est peut-être tout à fait exact comme analyse, mais on le sait pas. Fait que bien souvent, dans la plupart des cas, c'est qu'on va refaire l'analyse nous-mêmes. On va essayer de valider la conclusion de façon indépendante pour s'assurer que l'information est véridique. On prend pas ça pour du cash. Ça arrive fréquemment qu'il y a des... C'est pas de la malveillance, c'est pas de la mauvaise intention. Je veux vraiment, vraiment pas dire ça. Puis je veux encourager tout le monde qui est en train d'apprendre soit du reverse engineering ou qui commence dans, qui s'intéresse au threat intel. Essayez, publiez vos trucs. Arrêtez pas, là. Je veux vraiment pas que les gens se découragent et disent ah, Alexis, il dit que ça sert à rien. C'est vraiment pas ça. L'opposé,
même. Non, mais c'est ça. Mais je vais arracher là-dessus. C'est juste parce que faut qualifier le travail qu'on fait. Puis c'est quand. Parce que tu sais, je suis pas mal, pas très, très avancé là-dedans. Et quand je vais mentionner ou je vais en parler, j'en parle pas comme un expert, j'en parle vraiment comme un débutant dans le contexte. Et justement, de qualifier la où je me situe moi-même, justement, et de progresser. Puis j'aime beaucoup ça comme loisir, là, mais je suis rien d'un expert là-dedans, là, de très, très loin. Là. Mais c'est important d'avoir cette curiosité-là, puis c'est important à ressouligner que soyez curieux, mais dites-le que vous êtes un curieux, puis pas nécessairement un professionnel ou un expert dans le domaine.
Puis tu sais, il y a aussi la partie, tu sais, écouter le feedback. Tu sais, c'est facile, c'est super facile de publier des trucs. Tu mets un blog, ça prend 2 secondes, tu t'envoies des tweets et tout ça. Puis c'est important, je pense, de porter attention au feedback. J'ai personnellement donné du feedback à du monde que je connaissais pas en tout. Puis c'est pas du feedback de ta recherche c'est de la chenoute, puis tu sais, mets ça hors ligne au plus Moses, c'est, tu sais, c'est cool la recherche, t'as de temps, telle partie, tu tires telle conclusion, as-tu pensé à ça? Tu sais, j'ai une couple d'exemples en tête. Tu connais Virustotle? Tout le monde connaît Virustotle. Facile.
Absolument. C'est l'outil. Moi, je suis beaucoup plus en IR, fait que je suis en plus en réponse d'incident. Fait que moi, je suis plus du côté. C'est pour ça que je m'intéresse un peu à la recherche parce que je suis du côté IR, là, mais oui, Virustotle est un outil primordial, voire pas essentiel à ma vie.
Ben oui, mais c'est vraiment pratique. Fait que tu sais, t'uploades un fichier puis tu regardes, y a-tu zéro antivirus qui le détecte? Y en a-tu 45, 50? T'sais, ça donne un gauge de disons, le niveau de malveillance du fichier ou qu'est-ce que les antivirus pensent de ce fichier-là. L'affaire, c'est que si tu le sais pas, si tu regardes les résultats et tu dis, ah, il y a, mettons, 7 sur 52 versus 18 sur 52, c'est une bonne métrique. T'sais, c'est-tu une bonne façon d'évaluer? Vraiment pas. Je te vois faire non. Vraiment
absolument
pas.
Absolument pas, mais je suis en IR. Fait que c'est sûr que. Puis en plus, parce que je connais la plupart des antivirus qui sont testés. Bon, j'en connais en tout cas au moins 50%. Je connais leurs forces et leurs faiblesses à chacun. Fait que dès lors, je suis capable de porter un jugement que si un antivirus obscur va me dire que c'est un malveillant, je vais donner moins de poids. Puis tu parlais justement des humains tantôt, à un antivirus ou un EDR plus, va être capable de détecter davantage. Puis l'analyse subséquente, c'est je vais voir, parce que Virustotle donne un certain nombre de détails sur les facteurs qui ont aidé à élaborer. Et ça, parce que je suis un professionnel dans le domaine, je suis capable de comprendre les choses et de voir que si c'est potentiellement un faux positif ou c'est réellement fondé et ça vaut la peine d'aller creuser parce que là, puis même dans le cas d'un petit virus obscur qui a détecté quelque chose, puis parce qu'il a détecté un comportement étrange, je suis capable de voir, OK, oui, c'est vraiment étrange, je vais creuser pour de vrai.
Tout à fait. Puis, tu sais, l'autre affaire qu'il faut se méfier, c'est que dans tous les antivirus qui sont disponibles sur VT, il y en a plusieurs qui partagent le même engin. Tu sais, tu peux partir ton antivirus puis aller payer une licence pour prendre l'engin de quelqu'un d'autre, puis tu vas le mettre, tu sais, antivirus Alexis Nicolas Inc. Mais tu sais, le résultat d'un scan va pas mal être le même que toutes les autres qui ont le même engin. Fait que tu sais, c'est important de les sortir, tu sais, dans un cadre professionnel, on les connaît ceux-là. Puis tu sais, on les traite comme un verdict. C'est pas parce que les cinq disent la même chose qu'il y a cinq arbres de décision ou cinq expertises indépendantes qui sont venues à la même conclusion.
Mais ça donne pas de poids supplémentaire à l'analyse. C'est un peu ce que faire référence à ta conférence, c'est la chambre d'écho. C'est-à-dire que si tu as un papier sur lequel six personnes se réappuient pour donner des conclusions, ben on a un papier, pas six. Fait que si on est vraiment dans un contexte, il faut s'assurer que la source, elle est unique et nous permet de corroborer. Puis c'est vraiment l'important en recherche. La corroboration, elle a une valeur très, très grande de savoir que c'est deux sources distinctes qui donnent le même résultat, beaucoup plus de valeur qu'une source qui parle tout seul puis qui est imitée par six personnes.
Exact. Puis tu sais, dans concrètement, ce que ça veut dire en threat intel ou ce que ça, une des choses que ça peut dire, c'est mettons que tu achètes des feeds d'IOC. OK? Tu achètes des listes où il y en a des gratuits, là, des feeds. Là, c'est fait que tu as des listes d'adresses IP et de noms de domaine qui sont censés être malveillants. Fait que mettons, dans un cas de réponse à un incident, tu regardes puis tu vois, oh, il y a eu une résolution DNS vers ce domaine-là. Puis j'ai trois de mes feeds qui disent que c'est malveillant, ça. Tu en as trois sur cinq, mettons. Ça veut-tu dire que c'est le même pattern que je disais, tu sais. Elle vient d'où l'information de ces trois feeds-là? C'est-tu un master feed qu'eux autres ont juste réagrégé, bundlé, puis qui t'ont revendu? C'est bien dur à savoir, c'est bien dur à aller vraiment assesser là, d'où c'est que ça vient.
Attends, en tant qu'utilisateur de ce genre de choses-là, puis justement, c'est pour ça que je trouvais ta conférence intéressante et très pertinente de diffuser ça à tout le monde parce qu'il y a peu de gens qui se posent ce genre de questions-là. On va nommer un feed public gratuit très connu comme OTX, par exemple. Faut faire très attention à ce qu'on tire comme conclusion de ces feeds-là parce qu'il n'est pas vété par personne et c'est de la contribution publique. Fait qu'il faut vérifier. Puis en plus, OTX, c'est un feed de feed parce qu'il y a un paquet d'affaires là, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne. Et il faut ça vérifier s'il y a plusieurs feeds du feed qui corroborent. Et encore là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça a une valeur? Il faut faire très attention. C'est pas simple. J'ai l'utilisé dans mes vies passées. J'ai utilisé ce feed-là, ce master feed-là, mais avec beaucoup de distance et de réanalyse. Après, c'est comme, on pourrait dire, l'intelligence artificielle, parce que et là, oui, fine, c'est bien. Sauf qu'il faut quand même réanalyser comme humain par après, parce que ça nous permet juste de cibler plus rapidement et de passer à travers l'information. Mais même dans un cas d'un feed, il faut effectivement refaire un travail d'analyste. Ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de free lunch. Il faut relire, puis il faut savoir la qualité des feeds dans lesquels on a.
Oui, exactement. Hey, je peux-tu te parler d'une autre anecdote de trucs anonymes? C'est un truc que j'ai vu passer l'an passé. Bref, il y a une publication... en fait, l'an passé, dans le cadre de la guerre en Ukraine, il y a un wiper qui s'appelle Isaac Wiper qui a été découvert par ISET. C'était mon équipe à l'époque. Fait que c'est un wiper. C'est comme le seul but, c'est de scraper un poste de travail. Là. C'est pas il n'y a pas de rançon ni rien. Le seul but, c'est de rendre le poste de travail inopérant. Puis, une couple de jours après, il y a une analyse comparative de ce wiper-là en question. Puis les auteurs, il n'y avait pas d'auteur, là, c'était un blog que je connaissais pas. Puis il n'y avait pas d'auteur listé là, dans le blog. Puis ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont fait une analyse qui est une technique légitime, mais ils ont fait une analyse de réutilisation de code ou de similarité de code entre Isaac Wiper puis d'autres logiciels malveillants. Puis leur conclusion, c'était qu'il y avait beaucoup de similarités avec un rançon logiciel qui s'appelle Vatet ou Vatet, là, je ne sais pas comment le prononcer. Puis là, ils montraient des stats et tout ça, puis des beaux screenshots. Effectivement, il y avait des blocs de code dans les deux logiciels malveillants qui étaient identiques, des grosses chunks. Alors, leur conclusion, c'est, ben on ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup de réutilisation de code. Ça peut vouloir dire que les gens avaient le même code source. C'est peut-être le même groupe qui est derrière les deux logiciels malveillants. Bon, ils mettent ça en ligne. Évidemment, ben, comme mon équipe avait fait l'analyse de Isaac Wiper au début, ils ont fait « Hey, on a-tu manqué quelque chose? » Ben, figure-toi donc qu'en fin de compte, la similarité de code, c'est au niveau des librairies standards de C++. La similarité était réelle, était bonne, mais était apportée sur des composantes communes qui matchait sur des centaines de milliers d'exécutables. Fait que c'est pas une bonne comparaison. Fait que tu sais, dans ce cas-là, j'ai donné du feedback aux auteurs. J'ai fini par les retracer pour leur dire, en passant, je pense que ça match sur une... Pas je pense, ça match sur telle librairie. Tu sais, voici la librairie en question. Tu vois, le code est là. Fait que tu sais, il faut faire attention aux conclusions. T'sais, imagine un journaliste qui pose pas de questions, qui dit « Ah! » Ben, c'est peut-être des groupes de rançon logiciel qui sont mêlés à la guerre en Ukraine, puis là, ça part en épingle à cause d'une interprétation technique, très technique. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, des analyses de code de similarité de code. Fait qu'il faut prendre ça avec précaution avant de prendre les conclusions comme du cash.
Puis là, je vais refaire déjà des choses qu'on avait discutées sur le podcast qui est enregistré au CQ. Justement, il y a beaucoup de contexte. Et on est dans un domaine qui a énormément de contexte et c'est très difficile de communiquer ce contexte-là. Et là, tu en mentionnes un exemple comme ça. Puis tu sais, la personne que tu mentionnes a voulu bien faire. Puis j'espère qu'elle a bien reçu les observations puis ça l'a aidé à cheminer parce que cette contribution-là qu'on a entre nous, elle est essentielle parce que c'est ce qui fait qu'on est capable de se soutenir. Puis on est, à ce que je sache, un des seuls domaines que ce degré de partage-là aussi ouvert que ça, puis je trouve ça très agréable qu'on le maintienne, malgré le drama, malgré tout ce que le négatif qu'il y a quand même autour, parce qu'il y a des gens qui pourraient chialer, mais on demeure quand même dans un univers qui partage beaucoup, beaucoup, beaucoup l'information. Certains ont plus de misère à recevoir la critique, bon, ça, on va... ou les observations, puis mais s'ils ont reçu, ça, justement, ça aide à grandir, puis ces observations-là aident justement à cheminer, puis ça aide au bien commun de l'ensemble. Et je crois que dans ce cas-ci, comme ça doit être un blog obscur, Dieu nous sauve, les journalistes ne s'intéressent pas à aller au blog obscur. Ça évite ce genre de situation-là.
Ouais, en effet, mais remarque, tu sais, des fois, ça part en épingle, tu sais, sur Twitter, puis tu sais, comme, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sais, vois-tu, dans ce cas-là, ils ont mis à jour le blog, tu sais, au-dessus du premier paragraphe, en disant, ah, après, tu sais, after additional reviews, puis ils mettent la nuance que, finalement, la similarité était sur du code, c'est très commun, très courant, puis...
Fait que, ouais,
il n'y a pas de mal.
Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est important d'encourager la recherche, même si c'est de façon autonome et comme ça, parce que ça sert le bien commun dans tous les cas. C'est juste qu'il faut être capable d'accepter les observations qu'on reçoit des gens qui sont plus aguerris dans le domaine.
Puis c'est important aussi, tu sais, il y a tellement de drama, tu sais, du monde qui. Il y a une façon de donner du feedback. Il y a une façon, tu sais, de le dire, d'être constructif. Puis bienveillant versus chialer pour chialer. Là. Moi, je trouve une bonne journée pour moi, quand j'ai donné du feedback à quelqu'un que je connaissais pas, c'est quand la personne me dit « Hey, merci, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » Là, tu dis comme « Cool, j'ai fait quelque chose de bien versus... » C'est bien plus satisfaisant ça que de sortir un gros rant de « Ça n'a pas de bon sens, puis ici, puis ça. » Puis, tu sais, on est tous de bonne foi. Presque, je l'espère. Là. Fait que donnons une chance au coureur. N'assumons pas la mauvaise foi par défaut. Puis je pense que le monde va mieux supporter comme ça.
Je suis très d'accord avec toi. J'essaie d'amener beaucoup de bienveillance dans ma contribution publique, justement, pour amener les choses dans une zone où on va être meilleur. On va glisser justement, après avoir parlé des contributions plus anonymes ou des chercheurs inconnus, plus sur vos outils de collecte. Comment vous faites, vous autres, Proofpoint dans ce cas-ci? Comment vous collectez l'information? Quelles sont vos sources de données qui sont exclusives, qui sont les vôtres, finalement, qui donnent un edge supplémentaire par rapport aux autres? Chacun a un edge par rapport aux autres. Tout le monde a son edge dans sa zone à lui, mais le vôtre, comment vous collectez, qu'est-ce que vous faites, puis comment vous processez ces informations-là pour arriver à de l'information utile?
Oui, super bonne question. Je vais commencer par parler. En fait, l'information qu'on a pour faire nos investigations, c'est de l'information qui part beaucoup d'informations de clients. La matière première. Puis, je veux juste rassurer tout le monde, là, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret dans ça. On a plein d'options que les clients contrôlent pour dire on ne donne aucune visibilité aux chercheurs, on en donne un peu, on en donne beaucoup. C'est super transparent. Entre nous et nos clients, c'est super important. Le lien de confiance doit être là à 110%. Donc, on a des clients qui vont dire, t'sais, moi, je veux vos services de protection, mais je veux pas que vous puissiez voir. Nous, on fait beaucoup de sécurité des courriels. Là, c'est beaucoup dans ça que mon équipe, on patauge. Puis, on a des clients qui vont dire, moi, ce que vos systèmes vont traiter de mes courriels, je veux que personne n'y ait accès. Je veux pas qu'il y ait d'humains qui aient accès à ça. Donc, les courriels passent un filtre. Il y a un verdict qui est rendu, puis ensuite, tu sais, pas de log, pas de rien du tout. Puis c'est important de respecter ça, c'est sûr. Puis on a d'autres clients qui vont dire, ah, vous autres, vous allez avoir accès aux métadonnées des courriels. Tu sais, d'où il vient, les timestamps, tous les headers du courriel. Puis un peu d'autres méta-infos, là. Par exemple, mettons, les hashes des pièces jointes, mais pas les pièces jointes. Mais les hashes. Fait que des fois, on va être capable de corréler, tu sais, cette hash-là, on l'a vu chez plein de clients, mais on ne sait pas c'est quoi. Tout d'un coup, c'est un FP, un faux positif, puis que c'est un document Excel avec des salaires. T'sais, je donne un exemple de même. Mais les clients ne veulent pas que ça se retrouve entre les mains des chercheurs. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Et avec tout ça, ben, c'est pas mal notre matière première dans laquelle on va fouiller, puis essayer de trouver des attaquants. Qui essaie d'infiltrer nos clients. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup au niveau du courriel, tout ce que tu peux imaginer autour du courriel.
Très bien, oui, parce que c'est votre chemin de prédiction. Et comment vous arrivez, parce que tu sais, la menace évolue, puis depuis déjà plusieurs années, le courriel est la porte d'entrée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de menaces. comment vous détectez des nouvelles menaces? Parce que c'est ça l'intérêt pour les chercheurs, parce que les vieilles menaces, on les connaît, ça va. Puis dans le fond, moi, je suis du côté où je traite dans les vieilles menaces parce que c'est elles qui m'ont fait mal. Vous autres, vous êtes là pour intercepter les nouvelles menaces et juste me sauver de la job, finalement, essentiellement. Fait que comment vous détectez, puis quels sont vos indicateurs? Hey, on a quelque chose de nouveau, il se passe quelque chose d'anormal qui sort des normes par rapport à ce que vous aviez déjà vu.
Oui. Tu sais, dans le fond, pour... Si tu mets dans la peau d'un attaquant, quand tu veux attaquer quelqu'un par courriel, tu as besoin de plusieurs éléments. Tu as besoin d'une infrastructure pour les envoyer, tes courriels. T'as besoin, ben c'est tout à fait,
c'est essentiel. Puis la technologie est rendue forte pour bloquer justement les choses qui ne sont pas censées être légitimes. Ça, c'est le volet. La technologie a pas mal rattrapé.
Ouais.
Elle est assez sophistiquée.
Fait que ça te prend ça. Ça te prend après ça. Si tu veux, mettons, prenons le cas d'une attaque de d'hameçonnage dont le but c'est d'aller voler des logins, des mots de passe. Ben là, ça te prend un lien, un URL qui va pointer vers un serveur web qui va servir la page de phishing. Donc, ça te prend un nom de domaine. Ça te prend du hosting. Puis, en gros, c'est ça pour ça. Si tu veux, si le but de l'attaque, c'est d'infecter ta cible avec un logiciel malveillant, ben là, tu rajoutes une couple d'étapes là-dedans. Ça va peut-être être, mettons, une pièce jointe malveillante, un document Word avec une macro que tu designes, qui va aller downloader un second stage, un payload qui est hosté ailleurs, mais qui est encore hébergé en quelque part sur Internet. Ça, c'est un logiciel malveillant qui existe. Bon. Ça fait beaucoup d'éléments, OK? Et tu lances ton attaque le vendredi après-midi, c'est beau, ça a marché. Puis là, la semaine prochaine, tu te dis, hey, moi, je veux lancer une attaque sur d'autres cibles. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu as des choses qui sont brûlées là-dedans. T'sais, le nom de domaine, il va être flagué comme malveillant, tu veux le changer. T'sais, tu t'étais loué un serveur SMTP pour envoyer tes mails, tu veux-tu changer cette infra-là? Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait que l'attaquant brûle 100% de sa stack pour que sa prochaine attaque puisse pas être liée à la précédente. C'est coûteux, c'est long, c'est plate. Tu sais, imagine, tu te fais un logiciel malveillant, tu te fais un keylogger là, qui veut, qui fait juste comme loguer tout ce que tu tapes sur ton clavier. Tu le fais, tu l'envoies à 3-4 victimes. La semaine d'après, tu veux-tu en réécrire un from scratch? T'sais, on est des gens en informatique, on dit tu veux coder une fois un truc puis tu veux pas avoir à le refaire. Mais si tu réutilises ton code, on va le savoir, c'est toi. Fait qu'on va être capable de te traquer même si tu changes tout. Si tu réutilises un truc qui était exclusif, mais là, on va savoir que c'est toi.
Fait que vous jouez sur dans le fond, la masse d'informations que vous avez accès vous aide à repérer justement la répétition d'un outil ou d'un composant d'une attaque. Puis tu disais, on en avait débattu. Moi, de mon côté, hier, j'ai pas vu beaucoup de sophistication. Je vois beaucoup de répétitions de choses comme ça. Fait que pour moi, c'est facile. J'y vois, puis tu sais, on les voyait, j'y vois tout passer au niveau quand ils atteignent. Puis ils essaient de faire leur bidule. Là, puis ils sont tellement prévisibles. Les patterns sont très standards. Fait que ça doit être très visible. T'as quand même cité des cas. Puis ça, j'avais trouvé très chouette l'exemple que tu avais mentionné. Justement, un groupe qui avait simulé plusieurs fausses personnes pour arriver à ça, puis ensuite de planter le fameux URL malicieux à terme. Ça, vous désarmez, j'imagine, c'est plus difficile de détecter l'impersonnification, mais vous détectez le fameux URL et probablement le trigger qui vient comme vous amener à aller plus loin.
Écoute, dans ce cas-là, sauf erreur, là, dans ce cas-là, fait que c'est un groupe qu'on appelle TA-453, qui est un groupe iranien, qui est associé au gouvernement iranien. Et si je me trompe pas, là, on a flagué des courriels qui s'en allaient vers nos clients parce qu'ils ont réutilisé une adresse courriel qu'on avait déjà associée à ce groupe-là. Fait que tout ça nous a permis de connaître, juste parce qu'on traquait cette adresse courriel-là spécifiquement. Évidemment, nous, on sait que n'importe quoi qui vient de ce compte, de cette adresse-là, vers nos clients, on le bloque, c'est officiel. Mais en analysant toute la chaîne, on a pu flaguer d'autres adresses, d'autres comptes qui étaient aussi contrôlés par l'attaquant, qui ont réutilisé de façon indépendante dans d'autres attaques. Et tu sais, ça nous a comme permis de pivoter puis de découvrir leur infrastructure de compte de mail, puis découvrir d'autres campagnes qui n'avaient pas rapport à celles qu'on est en train d'investiguer. Fait que c'est comme un gros jeu de connecter plein d'éléments ensemble pour dire tout ça, c'est sous le contrôle de ce groupe-là. Puis à chaque fois qu'ils font une réutilisation d'un de ces éléments-là avec plein d'autres nouveaux éléments, bien, ça nous permet de ramasser ces nouveaux éléments-là puis de les clusterer, de les regrouper et dire ça, c'est l'œuvre de ce groupe-là. Fait qu'on se met des alertes sur à peu près tout ce qui bouge. Tout ce que tu peux imaginer d'un courriel, là, tu sais, une adresse, un from address, une adresse de serveur SMTP, les caractéristiques dans la version des logiciels utilisés pour envoyer les emails, les URL, plein de patterns, d'autres patterns là, que je ne veux pas trop entrer dans les détails, là, mais tout ce qu'on peut, on va vraiment faire un gros fingerprinting, si on veut, de l'attaquant. Puis après ça, dès qu'il y a de quoi qui est comme réutilisé, ben, tac, ça nous trigger, puis là, on en sait plus sur l'activité là, du moment de ce groupe-là.
C'est très intéressant, puis justement, ces éléments-là, fait que c'est très difficile pour un attaquant de se cacher, puisqu'on retrouve toujours des fragments parce qu'on réinvente pas, là, c'est très dispendieux. Puis on avait parlé justement avec tes anciens collègues, là, justement, du fait ukrainien où il avait développé des outils très sophistiqués et qui, malheureusement, n'avaient eu aucun effet parce qu'il avait été intercepté. Donc, il n'y a pas de corrélation à ce moment-là parce que justement, il avait laissé des traces. Fait que ça devient très complexe, ces différents éléments. Très intéressant parce que c'est des informations qu'on n'a pas accès au grand public, mais que justement, que vous aide justement à retracer. Là, c'est vraiment chouette. On va conclure sur un dernier volet, puis parce que moi, je le trouve très chouette. Là, c'est vous avez un feed, justement, parce que tu entends parler des threat intel. Vous avez un feed que vous rendez public et il y a une version payante pour le du même feed aussi que j'ai eu à utiliser dans certaines de mes jobs, qui est très intéressant. Je vais te laisser un peu en parler parce qu'il y a une valeur très importante à celui-ci.
Oui, en fait, c'est pas nécessairement super connu de tout le monde, mais le Proofpoint a acheté une compagnie qui s'appelle Emerging Threats, qui fait partie maintenant intégrante de Proofpoint. Puis c'est une équipe qui se spécialise, en fait, le produit, si on veut, c'est des règles suricata pour des IDS, dans le fond, pour flaguer du trafic malveillant ou suspect. Évidemment, mon équipe à moi travaille beaucoup avec eux. Dès qu'on voit, on va analyser un logiciel malveillant utilisé par un acteur, un APT, ben on va étudier le trafic réseau, puis on va feeder ça à l'équipe d'Emerging Threats qui vont faire des règles, des signatures network. C'est comme une autre couche hein, la sécurité d'une organisation. Emerging Threats ont deux feeds. Il y en a un qui c'est ET Open, qui est gratuit. N'importe qui peut le ramasser. Ce qui est cool, c'est que ce feed-là inclut les règles qui ont été créées à partir de rapports open source. Fait que, quand quelqu'un, une compagnie sort un blog puis qui analyse une nouvelle menace, ben, la gang d'Emerging Threats, ils prennent ce rapport-là, ils vont valider une couple de points pour être sûr que c'est pas complètement, on en parlait tantôt, mais que c'est fiable. Et la règle ou les règles suricata résultantes vont automatiquement être poussées dans le feed gratuit. Fait que dans le fond, on monétise pas les connaissances que quelqu'un d'autre a mis public. On rend ça public, nous aussi. Puis il y a une super belle communauté autour d'Emerging Threats. Ils sont super actifs sur Twitter et tout. Fait qu'on donne les crédits aux chercheurs qui nous ont permis de créer ces règles-là, puis on les rend disponibles à tous. Fait que ça, c'est vraiment cool. Évidemment, le feed payant en contient plus. Là, il contient beaucoup de règles qui viennent de nos recherches, de nos analyses internes. Mais ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas un feed inutile. Loin de là, le feed gratuit.
Ouais, ben pour ceux qui ont peu de moyens, c'est très utile. Puis même à la limite, pour ceux qui ont des réseaux domestiques un peu plus sophistiqués, ils devraient avoir ça justement parce que ça sert à ça. Je l'ai utilisé. Moi, j'ai plus utilisé le feed payant parce que j'étais dans un contexte professionnel. Puis justement, les clients avaient les choses. Puis il n'est pas très dispendieux là, pour ce genre de choses. Je n'annoncerai pas des chiffres là, parce que c'est pas ma job et c'est pas le rôle. Mais c'est accessible pour des moyennes entreprises assez facilement, cet élément-là, de mettre en œuvre. Bref. Je te remercie, ça a été très plaisant. Conversation finalement qui a duré beaucoup plus longtemps que j'avais anticipé parce que c'est un sujet qui me passionne, qui je regarde du coin de l'œil, qui me tenterait, mais finalement qui n'est pas le mien. merci énormément. Ça a été plaisant d'écouter, ça a été plaisant d'en rediscuter avec toi.
Merci, bonne fin de journée, Nicolas. À plus.